Jardin des Villes, 15 minutes pour découvrir un potager urbain. Aujourd'hui, les paniers de la dernière pluie, chemin de l'île d'Amour à Mélan. Nous découvrons cette fois un terrain dédié au maraîchage dans la commune de Mélan. Nous sommes dans l'agglomération grenobloise, à deux pas d'une zone commerciale, dans un espace préservé de la circulation, en bordure d'Isère. Les légumes cultivés en agriculture biologique certifiée sont vendus sur les marchés, mais également en AMAP, sous une forme encore peu commune. Chaque lundi, les AMAPiens donnent de leur temps en venant cueillir eux-mêmes et en groupe les légumes de leur panier. Un pari de localiser la production alimentaire au plus proche des habitants, de cultiver à la main et d'impliquer chacun et chacune dans la compréhension d'une partie de ce que l'on consomme. Sur une nappe sonore d'hélicoptères, engins de chantier et corbeaux de passage, Yann Cholot et Nadège Azarias nous racontent l'aventure des paniers de la dernière pluie. Yann, si tu veux bien nous raconter un petit peu l'histoire de ce terrain et comment il fonctionne, comment tu t'organises dessus.
Le projet il date de 2014, grosso modo. Au départ, l'idée c'était de faire quelque chose dans l'esprit des AMAP, mais en impliquant davantage les gens, les clients, les gens des AMAP, en s'inspirant de projets qui existent en région lyonnaise. Et donc l'idée en gros c'était de créer un groupe de gens qui prennent des paniers de légumes et qui s'impliquent sur le travail au jardin en raison d'une journée tous les un mois et demi. Avec si on a un nombre suffisant d'adhérents, ça permettait en gros de salarier un maraîcher en fait à plein temps salarié, c'est-à-dire du 35 heures annualisé grosso modo sur le terrain. Ça c'était l'idée de base. Au départ donc il y a eu ce projet qui était juste un projet sans le terrain, un début d'association. Bon, de fil en aiguille, le terrain est arrivé assez vite, et par contre, le projet n'a pas vu le jour sous cette forme-là. En fait. J'ai repris le projet, voyant que le projet associatif était trop lourd à porter, difficile de mener à la fois le projet associatif de front et le maraîchage en tant que tel. Du coup, je me suis concentré sur la partie maraîchage à mon compte, en impliquant quand même le public au jardin par le biais de la cueillette. Ce que c'est devenu, c'est donc un jardin en maraîchage sur petite surface avec le gros de mes débouchés c'est le marché et après de la cueillette le lundi et le vendredi. L'idée derrière la cueillette c'est que grosso modo en temps passé quand on fait du maraîchage la récolte conditionnement vente on peut compter 50% du temps passé sur l'activité quoi grosso modo. Donc c'est pas négligeable impliquer les gens sur ce volet là.
Oui, c'est pas négligeable pour toi. Alors justement, avant de parler de l'autocueillette, est-ce que toi et ou Nadège, vous pouvez nous dire comment vous cultivez ici le terrain, quelle surface il y a déjà et quelle culture vous avez, comment vous fonctionnez, Nadège?
Il y a 1600 m² à peu près de cultivés. Sous serre, il y en a la surface sous serre est 600 m². Et en fait, on cultive à la main, donc avec un outil qui s'appelle la campagnole, qui permet de faire quatre travaux en même temps, à savoir le décompactage, casser les mottes pour affiner en surface, l'incorporation du fumier, ça trace la planche aussi. Donc du coup, c'est un outil qui est assez pratique. Enfin, pour moi, j'ai vraiment apprécié de travailler avec cet outil-là pour cette saison, en tout cas. Voilà.
Parce que donc toi, tu t'es occupé de ce jardin pendant l'année qui vient de s'écouler, 2016-2017.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc c'est du maraîchage biologique, on peut dire.
Ah de toute façon on est certifié.
Ah oui, vous êtes certifié.
Ouais. On a un cahier des charges auquel on répond. On est contrôlé une à deux fois à l'année. Par conséquent, justement, on est contrôlé à la fois sur les semences, sur les plants, sur les intrants, donc tout ce qui va être sur la fertilisation, le fumier. Et du coup, pareil, on doit avoir un plan de rotation des cultures bien précis. Et même sur les traitements, on met pas de pesticides, on met rien de chimique en fait. Par exemple, là, le seul traitement que j'ai utilisé cette année, c'était de la décoction de prêle sur les courgettes pour faire du préventif pour l'oïdium. Donc voilà, c'est l'agriculture bio, c'est même du préventif, c'est pas du curatif normalement.
D'accord. Et le fait de s'installer en ville, on peut dire qu'on est en ville ici,
Ça a été un choix précis ou ça s'est fait par hasard, comme ça ?
Pour moi, c'était un choix. J'habite en ville et la plupart des gens habitent en ville. Et je voulais faire quelque chose le plus local possible et accessible si possible sans véhicule. De se passer autant que possible, voire complètement, de véhicules motorisés.
Pour toi-même ?
Bah pour moi et pour les gens qui cueillent. Il se trouve que c'est pas exact, c'est pas à 100% le cas. J'utilise ma voiture en lien avec l'activité, je l'utilise une fois par semaine pour le marché. Parce que du coup les volumes sont. Même si le marché est super proche, vraiment très proche, les volumes sont trop importants pour le faire à vélo, même avec une carriole, il faudrait une carriole énorme. Du coup, mais voilà, ça se rapproche quand même pas mal de l'objectif. Donc c'était ouais, donc faire quelque chose le plus local possible, que les gens puissent venir récolter et acheter des légumes à vélo, que ça soit à portée de main, et aussi faire du lien avec la ville, quoi. Un lien ville-campagne, quoi.
D'accord, donc là vous êtes en lien avec la ville de Mélan principalement, Grenoble aussi ou...
Moi pour moi les gens qui viennent c'était pas mal Grenoble quoi, Grenoble, Saint-Martin-d'Hers, Mélan un petit peu.
Et est-ce que le maraîchage en ville ça a des contraintes particulières, est-ce que ce terrain-là il a des contraintes spécifiques ?
Bah en ville après je sais pas spécifiquement, ce qui est sûr c'est que c'est un terrain qui est très abrité, donc il y a du vent mais pas suffisamment et quand il fait très chaud... On a très peu d'aération même si on laisse les tunnels ouverts parce que on est trop quelque part, on est bien abrité par les arbres autour et donc forcément ça c'est sujet à développer davantage de maladies ou à faire venir davantage de ravageurs.
Et le fait d'être en bord d'Isère.
On est en bord d'Isère, ouais, donc il y a vraiment aussi Beaucoup d'humidité, les moustiques aussi, ça me concerne plus nous quoi, mais. En été, c'est pas évident. Le reste de l'année, c'est peut-être plutôt un avantage parce que c'est abrité justement.
Après, tu parlais du milieu urbain. Bon, moi, ce qui est fatigant, c'est d'avoir les hélicoptères qui passent tous les 4 matins au-dessus du terrain parce que bah, y a l'hôpital de la Tronche là qui est pas loin. Donc ça, au niveau sonore, si tu veux, effectivement, on va avoir des bruits de la ville qui sont pas forcément toujours agréables, mais après comme on est concentré vraiment sur le jardin et c'est pas, ça reste secondaire quoi.
Ouais, l'autre chose aussi c'est qu'on a quand même un bruit de fond de pollution, ouais. Je pense ici comme n'importe où dans l'agglo quoi. Après moi personnellement c'est un choix de vivre en ville et du coup je vis avec et mes légumes vivent avec. Mais bon, ceci dit, dans les campagnes, on peut avoir la sensation d'être au vert et en même temps, on est dans un bruit de fond de pesticides très souvent. Pas toutes les campagnes, mais il y a beaucoup de campagnes qui sont quand même très très touchées, quoi. Et on le voit avec la mortalité des populations d'abeilles qui est parfois plus forte, souvent plus forte à la campagne qu'en ville. Donc ça fait quand même réfléchir aussi. Enfin, dans les deux cas, on est affaire à des... à de la pollution.
D'accord. Et alors l'autocueillette, est-ce que l'un de vous peut expliquer le principe de la MAP en autocueillette ?
Bah du coup pour la MAP en autocueillette, donc déjà il n'y a pas d'engagement. Les cueilleurs en fait ils viennent, ils s'inscrivent sur un tableau au fur et à mesure des semaines. Et après bah voilà, ils peuvent ne pas venir pendant 3 semaines et revenir après. Là c'est plus de la communication par SMS principalement. Dans le principe en fait, donc quand ils viennent. L'idée, c'est que nous, on a préparé la composition du panier à l'avance. On écrit cette compo sur un tableau. Du coup, les cueilleurs, après, savent les quantités totales à accueillir parce que l'idée, c'est qu'en fait, tout le monde cueille pour tout le monde. On prend le temps d'expliquer, de dire, ben voilà, tel légume, c'est là. On pose la question de savoir s'ils savent récolter ou pas. Et s'ils ne savent pas, forcément, on explique. Il y en a un qui va aller cueillir les tomates pour tout le monde. Il y en a un autre qui va aller cueillir les courgettes pour tout le monde. Un autre, ça va être les salades pour tout le monde. Et après, chacun arrive avec... les légumes récoltés, les dispatchs dans les paniers. Après, chacun va payer aussi en fonction du type de panier choisi, si c'est un grand panier ou un petit panier. Il y a une petite caisse avec de la monnaie à disposition. Une fois payé, voilà, il s'inscrit pour la semaine suivante ou la semaine d'après ou alors il prévient par SMS quand est-ce qu'il souhaite reprendre. Voilà. Quand les cueilleurs sont suffisamment nombreux, franchement, en une heure, c'est fait, quoi. Ça va très très vite. Et ce qui est intéressant aussi dans ce système-là, c'est que ça met des personnes qui se connaissent pas forcément en contact. Et c'est vraiment agréable de voir des gens qui se connaissaient pas à la base, qui reviennent et qui sympathisent avec les autres. Et les gens, en plus, du coup, une fois qu'ils ont pris les paniers, ben, ils restent un peu pour discuter. C'est vraiment chouette, quoi.
Et puis c'est aussi un lien fort avec son alimentation, mine de rien, quoi, parce que chaque semaine, même si les gens ne viennent pas systématiquement, il y a quand même une certaine régularité. En fait, ils voient le jardin évoluer, ils voient les cultures, et c'est vraiment un lien, enfin, de mon point de vue, c'est un lien assez fort, quoi, avec son alimentation. Puis c'est un moyen de jardiner finalement sans avoir les contraintes d'un jardin aussi. D'être... Voilà.
Oui, de profiter de la cueillette, quoi, du meilleur moment du jardinage, ouais. À savoir le moment où on récolte. Ouais. Et effectivement, on connaît bien, pour le coup, le légume qu'on mange. Vous, ça vous fait un gain de temps réel? Est-ce que vous pouvez en parler?
Ça peut le faire à condition qu'il y ait suffisamment de monde. Tant que c'est assez petit, tant qu'il y a peu de monde, s'il y a peu de monde, c'est pas vraiment du temps gagné, en fait.
Alors, combien de personnes à peu près il faudrait minimum?
Il faudrait beaucoup de monde. Il faudrait plus de monde.
C'est-à-dire?
Moi, j'aurais envie de dire à partir de 15-20 personnes, ça commence à devenir intéressant. En dessous, c'est plus pour le principe que voilà, c'est un moment qui est, moi, que je trouve agréable, même si ça prend un peu de temps. Mais je pense qu'en dessous de 15 personnes, on est aussi bien en temps passé avec des créneaux. Des gros créneaux type marché, enfin, le marché ça prend du temps, mais on brasse beaucoup de légumes en un coup, quoi. Je fais le choix de faire la pause, de ne pas produire en hiver, parce que bah, déjà d'une, le jardin est petit, donc ça veut dire produire des légumes de garde, et puis c'est un moment que je prends pour moi aussi, parce que sinon, les maraîchers, il y a beaucoup de maraîchers qui ne s'arrêtent pas de travailler toute l'année, et moi je fais le choix de m'arrêter une partie de l'année, parce que c'est quand même assez prenant. Et sachant que la production, voilà, pour commencer à avoir des légumes au printemps, en avril, mai, bah, il faut les mettre en place début février pour certains, voire en octobre de l'année précédente. Donc, y a quand même...
En hiver, vu que le soir tombe tôt, les paniers sont... C'est toi qui cueilles les paniers ou toi,
ouais,
ou Nadège?
En fin de saison, je faisais ça. En octobre, je cueillais en avance comme sur des paniers classiques. Ouais.
Voilà. Et les gens venaient juste se servir. Et du coup, en contrepartie, il y a eu des chantiers. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans les chantiers?
Il y avait eu un chantier où on avait fait la plantation de l'ail pour l'année suivante. Par exemple, on avait travaillé le sol et planté l'ail, voire les fèves pour l'année suivante. Il y a eu de la construction de cabanes, il y a eu des aménagements du terrain divers et variés. Voilà, des choses comme ça. Hein.
Moi, ça me paraît une implication importante qu'on retrouve peut-être pas toujours dans le fonctionnement des AMAP. Tels qu'on les connaît en ville, où il y a des fois quand même des journées, mais où tout le monde n'est pas forcément partie prenante. Ça fonctionne bien là pour vous les chantiers?
Ben, moi c'était pas mal quand ça avait été mis en place.
Okay. On a déjà un peu moins.
Ouais, non, il y a eu un chantier où les cueilleurs sont venus et ils ont vraiment apprécié, c'est quand on a dû travailler le sol, mettre le fumier et planter les courges. Et ça, ils ont adoré parce qu'en fait, du coup, là où elles sont situées les courges, en fait, ils arrivent et ils voient directement l'évolution des plantes. Donc en fait, ils ont passé la campagnole, ils ont adoré. Porter le fumier, ça les a pas dérangés du tout, c'était génial. Passer le râteau, on avait Isabelle, la spécialiste qui passait les râteaux, qui adorait ça. Et puis après, du coup...
Spécialiste du râteau. Oui.
Voilà. Voilà, mais on parle bien du jardinage. Et du coup... Et du coup, après, voilà, ce qui était génial, c'est que ils n'étaient pas là pour la plantation des courges parce que voilà, il y avait un autre créneau et comme je fonctionnais avec l'agenda biodynamique, voilà, il y avait un créneau pour planter les courges. Mais du coup, ils les ont vus évoluer, ils ont pu en manger, ils étaient quand même super contents d'avoir participé à ça. Après, voilà, moi, c'était un peu mitigé parce qu'une fois, j'avais lancé un appel pour le silo et puis je sais plus pourquoi d'autre. Et là, il y a eu personne. Voilà.
Ah oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter sur le terrain, votre travail, la map, qu'on n'aurait pas dite, qui vous paraît très importante?
À part dire que c'est aussi comme disait Yann, c'est vraiment un regard particulier sur l'alimentation. C'est pédagogique parce que du coup, quand les familles viennent avec leurs enfants, c'est aussi un temps d'échange qu'il peut y avoir. Les enfants aussi comprennent d'où vient ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Donc il y a une éducation là-dessus aussi.
Pour les adultes aussi. Hein.
Pour les adultes aussi, ah bah c'est clair, non, pour les adultes aussi. Hein. Ouais. Mais et montrer que tous les terrains, enfin, ne méritent pas forcément proche de l'aglo d'être constructibles, parce que bah, du coup on peut y faire des jardins, on peut y nourrir des gens et montrer justement aux cueilleurs que on n'a pas besoin forcément de grands pour produire et pour en vivre, et que eux ils ont à proximité un jardin, bah, ça peut peut-être aussi les faire changer sur leur vision du monde agricole, leur vision de l'accès aux terres, de l'accès au foncier. Et ça peut aussi permettre de discuter de problématiques un peu plus larges auxquelles ils ne sont pas confrontés parce que ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur quotidien. Donc en fait, on peut avoir des discussions assez riches aussi là-dessus. Et ça, c'est vachement intéressant.
Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Et à bientôt.
C'était Jardin des Villes, au panier de la dernière pluie, chemin de l'île d'Amour à Mélan. Enregistré par Lucie Aubin pour l'association du Passage à l'Acte. N'hésitez pas à diffuser ces émissions et à en glaner d'autres sur le site de Radio Permaculture. Vous pouvez aussi nous soutenir en commandant des formations ou en faisant un don via le site radioperma.org. À bientôt !